pote, c'est devenu un frère. Quand je marche avec lui, pour rien ne m'effraie. On a vécu des choses qu'on peut pas citer. Entre nous, pas de langue de bois, pas de secret. On n'a pas changé, les années sont passées. Certains nous ont lâchés. On s'est promis d'être soudés jusqu'au bout. Tu l'as choisi, vous deux, c'est l'amour fou. Tu connais sa famille, elle connaît la tienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. N'aie pas d'inquiétude, c'est sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle.
Ce soir c'est ton jour, la danse fait démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grand, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête.
Ta vie de famille se construit. Elle t'a donné sa confiance. Forcément y'a des hauts et des bas. C'est une étape à franchir, cousine, tu sais. N'écoute pas les gens. Tous les hommes sont pas pareils, c'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je me connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça me fait plaisir, ça me fait rêver. Tout le quartier s'est déplacé pour toi. Ton histoire ne fait que commencer.
Ce soir c'est ton jour, la danse fait démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rappeler ça. Des petits au grand, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête. Des souvenirs qu'on pourra se partager.
Choisis le destin, c'est pas trompé. Une étape de franchi. Le meilleur moyen de se ranger, c'était de s'unir. Désormais dans la cour des grands, la fierté des parents considéreront leurs petits-enfants. Mon ami, on est fiers de toi. C'est ta destinée, à quelle haine
pas. Ce soir c'est ton jour, la danse fait démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Les petits au grand, la famille au complet.
Retour sur le plateau de Maki Pluriel, 04 78 21 05 95. À l'instant, on vient d'écouter MHD qui parle du mariage et on le salue bien beau. Bientôt, il y aura le salon du mariage à Lyon. Donc, c'est pour tous ceux qui souhaitent se marier. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil. Olivia Pop, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va?
Bonsoir l'équipe.
Bonsoir.
Voilà, donc il y a Glouba, la confidente, qui est là aujourd'hui, Abdespedia, fidèle au poste, et puis le chef du village aussi qui est là. Ça va?
Bonsoir, merci.
Il fait combien de degrés à Grenoble?
Ouh, je compte plus, il fait moins 8000 au moins.
Moins 8000? C'est pas la Sibérie, mais c'est la Dibérie chez vous, hein?
Moi, je compte même plus.
Bon,
je compte même plus. Je me déguise en Esquimau et je sors.
Bon, tant mieux, parce qu'il s'est fait vraiment froid. Déjà, ici, nous, on a froid, donc on s'imagine ce qu'il fait à Grenoble là-bas. Parce que vous, vous avez un pays, quand il fait chaud, il fait chaud, quand il fait froid, il fait froid.
Ça rigole pas chez nous.
En tout cas, ça rigole pas. C'est-à-dire que ceux qui sortent de Grenoble, ils sont aptes à venir dans toutes les villes.
C'est ça.
Alors, ce soir, on va parler donc des victimes des traditions, c'est ça?
C'est un sujet, ouais. Un peu
voilà. Est-ce que tu peux nous remettre le sujet dans le contexte et puis on va prendre notre auditrice qui est déjà à l'antenne?
Alors, bah, comme tous les sujets qui viennent en ce moment les mardis, c'est suite à des rencontres ou l'histoire de quelqu'un. Donc, j'ai fait une rencontre un peu bouleversante hein, de cette fille du coup, qui m'a un peu parlé de son histoire. Et je me dis, mais mince, on est en 2017, mais comment on peut encore vivre dans ça, en fait ? Être tenu par des traditions, des histoires de caste. Moi, j'ai, voilà, pour moi, ça se passait que dans des films en Inde, au Bangladesh, ou je ne sais pas. Et du coup, ben, on va l'écouter. Hein. Je pense qu'elle est plus, elle pourra plus nous parler, elle, de son histoire. Et merci à toutes les personnes qui vont, voilà, au moins apporter un soutien. On n'a peut-être pas de solution, mais on n'a pas réussi à trouver une association ou quelqu'un vers qui se tourner pour parler de ça, parce qu'elle s'est sentie vraiment seule dans ses démarches. Et puis, surtout, le côté atteinte à la dignité et à sa personne. Et c'est ce qui m'a touchée. J'ai vraiment voulu qu'on lui fasse honneur ce soir et de l'accompagner, même psychologiquement, dans son combat.
D'accord. Voilà. Donc, voilà, prendre l'antenne, mais ça rejoint un peu ce que nous avons eu il y a quelques semaines sur les mariages imposés, les situations de détresse par rapport à ces situations de mariage. Bonsoir.
La victime. Donc, voilà, c'est Stéphanie.
C'est Stéphanie. Bonsoir, Stéphanie.
Bonsoir.
On va augmenter un peu le son de Stéphanie, même si elle est loin de nous, quand même, avec la technique, on doit pouvoir la voir comme si elle est à côté de nous. Bonsoir, Stéphanie.
Bonsoir.
Bonsoir, Stéphanie. Bienvenue sur le plateau de Maki Pluriel. On va vous accueillir en compagnie d'Olivia Pope, Global Confidente, Abdespedia et le chef du village. Alors, nous avons un conducteur sur la situation que vous avez vécue. 3 années magnifiques, 3 années de vie commune, des enfants. Mais parce que je ne suis pas Peul ou de la même caste, sa famille l'oblige à me quitter, à nous quitter, mes enfants et moi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu avec plus de précision?
Donc voilà, bon, en fait, il y a 3 ans, donc j'ai rencontré cette personne.
Oui.
Ça a été le coup de foudre. Donc, voilà, on se voyait tout le temps, on ne pouvait pas se quitter.
Oui.
On s'est installé rapidement ensemble. Donc à l'époque, j'avais déjà 3 enfants. Il s'est occupé de mes enfants comme si c'était les siens.
Une famille recomposée, quoi.
Voilà, il s'est occupé de mes enfants comme si c'était les siens. Il les amenait à l'école, on faisait tout ensemble. Et. Comme si, en fait, comme on s'était toujours connus, voilà.
L'amour, quoi.
Une histoire vraiment très spéciale. Et puis, petit à petit, je vois que sa famille fait pression. Mais lui, il tient le choc, il refuse. Sa famille donc est venue jusqu'à me rencontrer. Donc, j'ai rencontré son grand frère. J'ai rencontré sa maman. Je m'en suis occupée comme si c'était la mienne. J'ai rencontré donc le reste, enfin, de sa famille proche via téléphone parce qu'ils habitent loin. Et en fait, on était en train de me démolir par derrière en faisant que des tours par devant. C'est pour ça que je suis un peu tombée des nues, donc il y a 6 mois. Il a pris un appartement en cachette. Et puis voilà, il est parti du jour au lendemain, d'autant plus que j'ai été quittée par message. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas pu avoir quelqu'un en face de moi pour m'expliquer avec lui. On a eu un enfant, c'est 1 an aujourd'hui. Et en fait, voilà, après 6 mois de séparation, monsieur est déjà marié, installé avec madame. Voilà, je trouve ça totalement hallucinant. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à me donner une propre explication à moi-même, en fait.
Alors, est-ce que Stéphanie, tu peux leur expliquer l'arrangement qu'il y a eu entre les familles, enfin tout ça?
Ah
aussi.
Oui.
Parce que voilà, il n'est pas juste parti comme ça, il y a eu une histoire de... voilà.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette femme... donc était étudiante dans une autre ville en France. Et comme elle n'a pas eu ses titres de séjour,
c'est-à-dire
ses études parce qu'elle ne les avait pas terminées. Et en fait, il y a eu un arrangement entre la maman de mon ex et la famille de cette fille. Donc ils ont donné de l'argent à sa maman pour qu'il y ait ce mariage. Il fallait absolument ce mariage.
Un mariage blanc.
En gros, c'est ça.
Un mariage pour les papiers, quoi.
Voilà, c'est un mariage pour les papiers, parce qu'elle, en fait, ils se sont mariés le 19 novembre.
2016
Oui, oui. Et en fait, le 30 novembre, elle était sans papier.
D'accord, donc ils sont mariés 10 jours avant, quoi.
Voilà.
Non, mais aussi, je pense qu'il est important de préciser qu'on t'a aussi ramené que, du coup, tu étais...
Bien sûr, je n'étais pas digne d'eux.
Alors, on va remettre un peu les choses dans l'ordre. Donc, vous aimez quelqu'un. Vous, auparavant, vous avez déjà une vie. C'est-à-dire, vous avez déjà 3 enfants, c'est ça ? Donc, il vient avec vous, vous tombez amoureux l'un de l'autre, vous vous installez dans une vie commune, mais ce jeune homme a une forte pression du côté de sa famille.
C'est ça.
Et donc, du coup, il refuse, il ne veut pas céder, et à un moment donné, la pression de la famille est plus forte. Et donc, on lui trouve une autre femme, et vous, il vous quitte.
Sans explication.
Alors, est-ce que le fait qu'il ne soit pas de la même origine que vous est une des causes ?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on m'a gentiment expliqué, et surtout vulgairement, que je n'étais pas digne d'eux.
Digne ?
Oui, oui.
Ah ouais.
Je vais employer des mots grossiers, j'en suis désolée.
On va mettre un bip, allez-y.
J'ai été traitée de bâtarde et de vue de mon histoire. Donc voilà, une parenthèse, j'ai été adoptée. Donc, mes parents. Donc je sais comme ça que je suis née. Et que même mes enfants sont nés comme ça. Tous mes enfants, c'est des bâtards, y compris leur propre sang, en fait.
D'accord.
On m'a menacé de mort. Parce que voilà, je me suis battue. Parce que voilà, c'était l'homme que j'aimais. Donc... je me suis battue, j'ai cherché des réponses, du coup, il ne m'en donnait pas. Et en fait, je me suis vraiment pris un vrai mur, des insultes, de l'humiliation.
Et là, actuellement, vous avez des contacts avec votre ex ?
Non, il n'a pas
de réponse, changé
de numéro de téléphone, abandonné son fils.
Il a abandonné son fils ?
Oui.
Ah oui, carrément.
Du coup, est-ce que tu peux prendre la suite ?
Bonsoir à vous deux et on est un petit peu émus par cette histoire qui, à mon avis, n'est pas la seule. Et je voulais savoir s'il avait reconnu son enfant.
Oui,
il l'a reconnu.
Très content de son enfant, oui.
Ouais, et malgré ça, aucune envie de le voir, aucune envie de vous contacter.
Aucune.
C'est vraiment, il a une famille qui a une grande emprise sur lui, hein. Et finalement, vous le vivez comment, vous ?
Heureusement qu'il y a mes enfants, j'ai envie de vous dire.
Oui, c'est... Oui.
Et ça me donnait une raison de me lever tous les matins et de me battre.
Oui, tout à fait.
Mais après, voilà, en tant que personne,
oui.
Franchement, jusqu'à aujourd'hui, je le prends très très mal.
Bien sûr.
Je ne me suis pas sentie humaine. Voilà, j'ai une histoire qui est très difficile. Mais ça m'a achevé. Ça m'a... Comment dire j'avais l'impression de n'être même pas un animal, en fait.
Oui.
Oui, d'être considéré comme moins que rien, quoi.
Voilà.
Le problème, donc,
on va laisser terminer Stéphanie, Olivia, pardon. Allez-y, Stéphanie.
Voilà, je me sens pas protégée. Je vais être plus du tout, en France. J'ai cherché des associations. Donc, pour essayer de comprendre ce genre de situation, s'il y en avait d'autres dans mon cas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des associations pour aider ces gens-là. Mais par contre, quand on est victime donc de ce genre de tradition, tout ça, il n'y a rien.
Donc, d'accord.
Même pas en parler, quoi.
On peut même pas en parler, il y a même pas de... c'est un mur, quoi.
Voilà.
Olivia ?
Oui, donc moi, c'est vrai qu'il y a, elle a été, ça m'a beaucoup émue en vérité, hein, c'est vrai que je maîtrisais pas trop l'histoire, des histoires de caste, hein, avec une pression comme ça, donc j'ai fait un peu des petites recherches, j'ai un intervenant là qui va nous en parler un peu plus tout à l'heure, donc moi j'ai juste pu lui donner des conseils juridiques en fait.
Alors quels sont les conseils juridiques ?
Pour moi, l'atteinte à la dignité, le harcèlement, se sentir en danger, ça mérite une plainte, ça mérite un avocat, un soutien, d'aller voir quelqu'un qui a les compétences, en fait.
Oui, mais...
Parce que les copines ou les amis, ça va un moment, mais je pense qu'à un moment, pour pour n'importe qui d'ailleurs, qui se sent atteint dans sa dignité, qui se sent en danger, voilà, ça mérite de la justice. Donc du coup, elle a fait le premier pas de prendre un rendez-vous chez un avocat, et ça, j'ai trouvé cette démarche très très bien. Mais je pense que avec l'esprit embrouillé, on n'arrive pas à y voir clair, et que cette rencontre, elle s'est faite un peu par hasard, et son histoire, elle me l'a racontée un peu par hasard, mais... Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. Peut-être que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui traversent ça ou qui en savent un peu plus, la compagnie aussi, à part le côté juridique, parce que maintenant elle a pris un avocat, de gérer le reste en fait. Voilà, on va prendre peut-être quelqu'un d'autre en ligne.
On va libérer Stéphanie et puis on va terminer peut-être avec Stéphanie. Abdespedia, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, non, mais je voulais dire en fait que le problème aujourd'hui de ce genre d'histoire, c'est que les femmes ne vont pas essayer de se faire connaître. C'est pour ça qu'il y a pas, je pense, c'est pour ça qu'il y a pas d'association ou de choses qui ont été mises en place pour ces femmes-là. Puisque quand une femme subit ça, en règle générale, la seule chose qu'elle a envie, c'est plus de se tairer que de crier haut et fort ce qui lui est arrivé.
Moi, je pense que plus que ça, ce qui me semble quand même, c'est qu'on a une société d'hypocrisie.
Ah, mais ça, on
l'a. C'est-à-dire que la France a un côté un peu hypocrite par rapport à ça. Je vais prendre un exemple par rapport à la polygamie. Hein.
Oui.
Hein. Jusqu'à un certain nombre d'années, dans la banlieue parisienne, la polygamie était tolérée. Alors, pourquoi je dis tolérée ? Par exemple, quelqu'un qui avait deux femmes, les deux femmes pouvaient avoir droit aux allocations familiales du mari. Oui, juste à un certain nombre d'années, sous le fait que c'était culturel, on le tolérait. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont fait venir leur deuxième femme en région parisienne, et vous avez des familles où il y a 20-25 personnes dans le même appartement. C'est pas de la caricature, c'est des choses qu'on a vécues. Donc sur ce genre de choses, moi j'ai l'impression que on a, je dirais, une part du politique français ou du politiquement bien pensant qui est tolérant à ce genre de choses. Or, vous inquiétez pas, chez eux c'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça.
Sur un territoire national français, on est soumis à des lois et à une réglementation de la même façon que... Donc je ne vois pas pourquoi on tolère...
Non, mais les lois, c'est de l'hypocrisie.
Oui, c'est-à-dire que c'est de la tolérance. C'est de la tolérance. Alors le Maroc vient de marquer. Hein.
C'est ça.
C'est ça.
1-0.
Le Maroc vient de marquer 1-0. donc Abdespedia, elle est tout content. On va manger ta tagine XXL.
Voilà, t'as tout compris.
Donc par rapport à ça, il y a une tolérance. C'est-à-dire que les hommes politiques, pour acheter la paix sociale, toléraient un certain nombre de choses. Et c'est quand on s'est rendu compte des échecs scolaires des familles qui ne restaient pas, qu'on est rentré au fond dans l'histoire et on s'est rendu compte que cela n'était plus acceptable. Donc sur les histoires de caste, aujourd'hui, pour la loi française ou pour le politique français, c'est chacun est libre de mener la vie qu'il mène. Mais nous qui avons le recul, on ne peut pas accepter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre que deux personnes qui s'aiment, au nom d'une pseudo-règle qui veut que les gens se marient de la même caste, on détruise des gens qui s'aiment. Et ça, c'est normal. Je veux dire, moi, pour moi, je suis choqué. Parce que c'est scandaleux.
C'est vraiment... Ouais, c'est violent. Ouais.
Voilà, c'est violent. Global, vous voulez rajouter quelque chose ?
Tout à l'heure, on parlait d'associations, qu'il n'y en avait pas au sujet des castes. Moi, je pense que c'est des filles comme cette jeune fille qui témoigne aujourd'hui, qui peut communiquer, raconter son histoire, et puis partir de son histoire pour monter un mouvement un petit peu qui dénoncerait tous ces systèmes de caste. Parce que bien évidemment, il y a des femmes qui n'osent pas, il y a des femmes qui ont honte, il y a des femmes qui culpabilisent, et je pense que pour faire le deuil de cette histoire, il faut arriver à en parler. Et en parler, ça permet à d'autres aussi de délier leur langue et d'en parler. Et on n'attend pas les politiques, c'est pas les politiques qui viendront frapper chez nous pour nous écouter. Ce ne sont pas d'autres femmes qui n'ont pas vécu cette histoire. Je pense que le combat, il doit être mené par des femmes comme vous qui ont connu malheureusement cette tragique histoire. Et vraiment...
Olivia ?
Oui, je pense qu'il doit en avoir beaucoup.
C'est voilà.
Quelque chose. Et Stéphanie, je vais la laisser s'exprimer. Mais parce que du coup, ça lui a donné une idée. Hein. Du coup, vous en
alors, avez... on écoute l'idée de Stéphanie.
Oui.
Stéphanie ?
Parce que je rejoins en fait ce qu'elle disait la dame. Moi, j'avais justement pris, j'ai commencé à prendre contact avec une mairie.
Une mairie ?
Pour justement me renseigner pour vivre une situation justement comme ça. Non serait-ce pour aider moralement en fait la personne, parce que j'aurais aimé avoir une aide à ce moment-là quand on arrive.
C'est ça.
À un point de non-retour. Et c'est très compliqué.
Alors, au niveau association, on peut s'organiser, on peut lancer un appel à des gens de bonne volonté qui ont envie qu'on travaille sur la question. Une association, c'est 3 personnes, c'est des statuts rédigés, et on peut, à partir de là, une association qui pourrait permettre à toutes ces personnes-là de se réunir, de pouvoir échanger pour avancer. Moi, j'ai une question à poser à Stéphanie. Et par rapport à l'enfant, ça se passe comment? Parce que c'est quand même le père de l'enfant.
Oui, mais je n'ai pas de nouvelles de lui.
Vous n'avez pas de nouvelles? Donc, par rapport à la pension, éventuelle pension alimentaire, vous pensez entamer des démarches?
Non, non, non.
Non?
J'en veux pas.
Pourquoi?
Mais pourquoi? La pension, Stéphanie.
C'est qu'un père, ça ne sert pas juste à envoyer un virement.
D'accord.
Père, il n'est pas là physiquement, ça ne sert à rien qu'il soit là financièrement et dire plus tard, se justifier en disant, eh ben, écoute, j'ai envoyé de l'argent pour ton éducation. Ce n'est pas suffisant.
Ce n'est pas suffisant. Abdes Pédia.
Stéphanie, un conseil. Moi, je vous conseille quand même de prendre la pension alimentaire, quitte à la mettre sur un compte pour elle plus tard, pour l'enfant plus tard, pour ses études ou quoi que ce soit, parce que ça pourra toujours servir. Mais voilà, même s'il n'est pas présent physiquement, faut quand même profiter un peu de cette manne financière.
Ce n'est pas une manne, hein, parce que les sommes qui sont données par rapport à l'éducation d'un enfant.
Je suis d'accord, mais si tu la mets sur un compte et que tu la laisses grandir. Pour plus tard, ça, voilà.
Moi, je parlais pas de la pension alimentaire en tant que somme. Hein. Moi, je partais plutôt sur le principe. C'est-à-dire que même si c'est 50 euros, je vais attendre une précision, après je donnerai la parole à Olivier et puis à Abdes, et puis il y a Goulba aussi qui veut intervenir. Est-ce que vous êtes dans un processus de démarche vis-à-vis de la justice par rapport à la garde, par rapport aux autorisations parentales?
Non, en fait...
Pour l'instant, non. Hein.
Pour l'instant,
vous êtes sous le choc, donc vous digérez.
Ouais.
Bah, là, c'est tout frais.
C'est tout frais.
Elle a un rendez-vous le 14 février, je crois, chez son avocat. Je pense qu'elle va pouvoir prendre du recul en voyant quelqu'un d'autre.
D'accord. OK. Olivier voulait dire quelque chose? Non? Abdes Pédia.
Oui. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est voilà, faut pas laisser passer la chose, quoi. Faut vraiment essayer de comprendre, essayer de le retrouver. Là, vous savez pas du tout où il est.
Si, je connais son adresse.
Ah, d'accord. D'accord.
Je pense que le mec, il a fait un blackout, quoi. Il fait l'huître.
Oui, il fait le mort, quoi.
Glouba.
C'est ça.
Alors, moi, donc, pour parler de tout ce qui est droit, pension, je pense qu'on a aussi une sacrée dignité, une sacrée fierté à dire qu'on n'a pas besoin de son argent, que s'il a laissé l'enfant, c'est qu'on n'a pas besoin de lui. Mais je pense que lui demander votre dû, c'est même pas une question d'argent, mais c'est une question de
principe.
Qu'il prenne conscience, en fait, que cet enfant aussi lui appartient. Il y a une partie de lui qui est là. Et finalement, ne pas demander de droit et le laisser continuer sa vie avec sa deuxième épouse, finalement, c'est cautionner la famille, qui est bien contente que vous le rappelez pas à l'ordre. Donc finalement, vous aussi... Si vous ne demandez rien, vous vous effacez et vous permettez à la famille de gagner dans ce sens-là. Donc moi, si j'étais vous, votre combat, il est entier. Il est dans la dénonciation de toutes ces castes, mais il est aussi dans le fait que cet enfant doit être reconnu en tant qu'enfant qui fait partie de sa vie, et il doit faire partie de sa vie, et quand bien même ça déplairait à sa famille... Je pense que il lui faut du temps, mais peut-être que dans quelques années, eh ben, vous savez, avec l'expérience de la vie, avec les épreuves de la vie, et puis on mûrit, etc., peut-être que vous aurez un retour, pas à vous remettre avec lui, hein, mais bon, qu'il prenne conscience qu'il a un enfant, et puis qu'il n'a pas fait d'erreur. Vous savez, des fois, la pression de la famille, c'est pas évident. Quand on a des parents qui nous font des chantages affectifs, etc., c'est très dur, surtout dans les familles africaines ou maghrébines. Mmh. Moi, je suis maghrébine, je sais comment ça se passe. Donc, je pense que quand même, il faut le solliciter dans son rôle de père. Même s'il ne le veut pas, c'est un combat important.
Et peut-être que ça lui fera un déclic.
Voilà. Donc, vraiment, je vous encouragerai dans ce sens.
On va écouter Stéphanie, oui, par rapport à ce qu'on vient de lui dire.
Moi, si je lance ce genre de démarche, ça l'arrangerait plutôt. Parce que, en fait, c'est très bien que je ne veux pas que ta famille s'approche de mon fils.
D'accord.
C'est que je ne veux pas que sa femme s'approche de mon fils.
Ah, ok. Ok. Mais ça, lors de...
Celle-ci et compagnie, donc je n'ai pas envie.
Ok. Vous ne voulez pas que sa nouvelle famille...
Fasse quelque chose.
D'accord, vous avez peur qu'on lui fasse quelque chose. Voilà. Mais ce qu'on était en train de dire, si vous voulez, c'est par rapport au droit, puisqu'on a parlé du droit en commençant le débat. Il y a un certain nombre de choses que vous devez faire. Moi, je vais vous prendre deux exemples simples. Bon, pour l'instant, il a quel âge, l'enfant ?
Il a un an.
Il a un an, ouais. Donc, dans ce cas, il est tout petit. Mais je vais prendre deux exemples simples. Premier exemple, si vous devez sortir du territoire avec votre enfant, aujourd'hui, la loi exige qu'il y ait une autorisation parentale des deux parents. Voilà, elle vient d'être remise en cause. Donc, c'est-à-dire que si vous devez voyager, si le père s'offuse, ne se prononce pas, la police de l'air et des frontières refusera que vous quittiez le territoire. Donc, vous ferez payer à l'enfant indirectement. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quand il aura l'âge d'aller à l'école, ne serait-ce que pour l'inscrire à l'école, pour faire un certain nombre de choses, il faut que les deux parents viennent. Voilà. Donc, pour l'instant, vous êtes, comme a dit Olivia, c'est tout frais. Mais je pense qu'au-delà de la pension alimentaire, votre enfant, il faut le sécuriser par rapport à un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on parle plutôt du juge aux affaires familiales. Mais ça, on est parti un peu loin. Maintenant, peut-être qu'on peut parler un peu du phénomène de caste et puis du phénomène des gens qui veulent pas se marier avec des gens un peu différents. Hein, Olivia ?
Oui, oui, c'est ça.
Voilà, parce que on est parti de là. Hein.
On va essayer de joindre un monsieur avec qui j'ai échangé tout à l'heure sur ce domaine. Voilà, il part de l'Afrique de l'Ouest, mais il ramène ça aussi à l'Occident. Et c'est un peu des choses qu'on a tendance à oublier parce que du coup, finalement, on est resté peut-être que sur l'Afrique de l'Ouest, mais ça se passe dans d'autres...
Ah, ça se passe, hein, vous prenez l'Algérie, les Kabyles, etc. C'est ça, non, Boulba ?
Mais on va, je vais libérer ma ligne.
Peut-être. Voilà, et puis il va nous appeler. Il nous appelle.
Ange, merci.
Merci, à tout de l'heure.
Pour rebondir, Christophe, je dirais que ça se passe au Maghreb, mais ça se passe même en France. L'endogamie sociale, elle est bien française aussi. Hein.
Oui.
Quand on voit certaines grandes familles en France, moi, je connais des personnes dans des familles d'avocats, etc., qui refuseraient que la jeune fille ramène un ouvrier à la maison pour dire « je vais l'épouser ». L'endogamie sociale se fait dans tous les pays du monde.
Oui, mais quand même, bon, là, on parle d'endogamie sociale, elle n'est pas culturelle, ni religieuse, ni ethnique.
Oui, mais...
Parce que là, par exemple, dans le cas de cette jeune fille, c'est qu'elle a deux cas particuliers. Elle a le premier cas, ils ne sont pas de la même origine, d'après ce que j'ai compris. Mmh. Et deuxièmement, ils ne sont pas de la même caste.
Tout à fait.
C'est-à-dire que du fait de son origine, les parents se sont opposés au mariage. Et je pense que, bon, même si ici ça se passe, moi je suis d'accord, hein, ça se passe ici, c'est moins prégnant. Je veux dire, il y a moins de pression, il y a une pression qui existe, mais je veux dire, il y a les moyens quand même de pouvoir se libérer de ces choses-là. Mais chez nous, il y a combien de personnes qui sont malheureuses dans leur mariage. On parlait du mariage imposé la dernière fois, on était à l'antenne. On parlait tout à l'heure, tu parlais du chantage affectif. Combien de personnes sont malheureuses parce qu'on leur met ces coups de pression. Il faut trouver la bonne personne. Si tu n'es pas avec la bonne personne, cela sera, ce ne sera pas. Donc bon, moi je pense que c'est vrai que c'est partout, hein.
Oui.
Mais
et qu'il faut le dénoncer.
Il faut dénoncer.
Ah oui, c'est voilà. Surtout ça.
Mais ceux qui souffrent, c'est des gens qui ne sont pas dans leur pays d'origine, donc ils sont en immigration et qui n'ont pas les repères, parce que les premiers repères qu'on a quand on immigre, c'est peut-être ses parents, hein.
Les repères et les codes.
Les codes.
Et les codes aussi.
On a quelqu'un à l'antenne ?
On a Ange à l'antenne.
Allô, oui, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Ah, lui on entend bien. Bon, Ange, bonsoir.
Oui, bonsoir, vous m'entendez ?
Voilà,
oui,
vous êtes sur Maki Pluriel, Radio Pluriel 91.5. On est en train de parler des soucis de mariage entre personnes d'origine ou voire de caste différente. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ?
Effectivement, j'ai vu le sujet sur le Facebook d'Olivia Pop. Donc, je me suis dit, ça serait mieux que j'intervienne sur un fait réel.
Oui. Vécu. Allez-y rapidement, racontez votre fait réel.
Moi, en fait, j'ai connaissé un jeune frère à moi qui est d'origine malienne et qui se fait avec une fille qui... Allô ?
Oui, je vous écoute. Oui,
on vous entend.
On vous entend.
Avec une fille française sénégalaise. Le souci est que lui, il s'appelait Sissé, en fait. Et la fille s'appelait Sissoko.
D'accord.
Et donc, la mère du gars dira aux jeunes que leur mariage, leur union n'est pas possible parce que, soi-disant, les tissés, en fait, selon la lignée, selon les castes, c'est des nobles.
Oui.
Des notables.
Des notables.
Les tissocos, c'est des griots.
Des griots.
Donc, dans la cour du roi, par exemple, ils sont faits pour vénérer pour servir les notables, par exemple, les nobles. Donc, sa mère lui a dit que cette union ne serait pas possible.
Mmh.
Voilà. Et entre-temps, on était avec un ami guinéen qui aujourd'hui travaille dans l'élite guinéenne, donc dans les circuits gouvernementaux, qui dira qu'effectivement, la maman du jeune avait raison parce que lui, quand il est venu faire des études ici, en France, ses parents lui ont dit qu'il pouvait bien s'entendre avec des moines guinéens, avec les blancs, mais que en aucun cas, il y aurait un mariage possible, parce que selon sa lignée, donc il y avait une femme qui l'attendait au pays qui est de même place ou casse qu'il lui.
Mmh.
Voilà, donc moi, à l'époque, je ne savais pas. Donc, et le gars a commencé à m'expliquer qu'en Afrique du Sud, il y a des noms.
Quand on parle tout à fait.
C'est un noble. Quand on parle de Kikoko, c'est une autre classe sociale. Quand on parle, par exemple, de...
Des tiams, les tiams, c'est des bijoutiers.
Et, voilà, donc, et qui est jusqu'au jour, c'est respecté. Mmh. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est des... Ça, c'est des trucs qui n'existent plus. Il m'a dit, non, ça existe juste qu'aujourd'hui.
Mmh. Ça existe aujourd'hui. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, que je trouve quand même... et ça, c'est très, très vrai. C'est que quand il y a des soucis de caste, surtout pour les enfants qui sont nés en France, les parents préfèrent qu'ils épousent même des blanches ou des blancs. Je crois que vous avez remarqué ça. C'est-à-dire que quitte à se marier à quelqu'un de non casté, ils préfèrent qu'ils se marient à un blanc qu'ils se marient à quelqu'un de non casté de son pays. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et là, on est dans le délire total, quoi. C'est-à-dire qu'on préfère se marier à quelqu'un qui n'est pas du même pays, qui n'est pas de la même origine, parce que, puisque la personne, le blanc n'est pas casté par origine, par nature. Donc quand il va se marier, la famille dira, off, ça c'est mon fils, il est parti en France, il s'est perdu, il n'a pas respecté la tradition. Je ne sais pas si vous me suivez.
Si.
Mais s'il se marie à quelqu'un de non casté, la honte, trois générations de vraiment, lui, il a gâté le nom de la famille, il allait se marier avec quelqu'un qui n'est pas de la même caste que moi. Alors que quand c'est quelqu'un qui n'est pas casté, ça passe. Donc ça, vraiment, moi, j'ai vécu deux ou trois cas comme ça. Je vous avoue que je ne sais plus où me mettre.
Voilà. Et donc, moi, je me suis dit, par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai... Quand j'ai lu les sujets, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, je dois intervenir par rapport à ces vécus. Moi, j'ai halluciné. Moi, je me suis dit, mais attends, à nos jours, il y a encore des pratiques comme ça. Et les gars m'animent. Mais bien sûr, ce mariage n'était pas possible.
Tout à fait.
Kikoko ne peut pas
épouser un Cissé.
Voilà, parce que c'est le serviteur d'un Cissé.
Voilà, c'est-à-dire que oui, c'est ça. C'est ce problème, c'est le principe de la caste comme en Inde. C'est-à-dire que les castes ne se mélangent pas entre elles. Est-ce que Stéphanie est toujours là?
Oui, elle est toujours là, normalement.
Allô?
Oui,
oui, elle oui est là. Alors, vous entendez ce que Cissé est en train de nous dire? Ce que vous venez de vivre n'est pas un cas unique?
Non, ce n'est pas un cas unique. C'est moi, en fait, justement... Si j'ai voulu en parler, c'est juste pour juste lancer un appel en fait aux gens qui savent qu'ils ont des obligations envers la famille. J'ai juste envie de leur dire, dans ce cas, venez faire vos études, tout ce que vous voulez, mais ne détruisez pas la vie des autres, quoi.
Voilà, c'est ce qu'on a bien compris. Nous, est-ce qu'on a compris la même chose?
C'est-à-dire,
venez faire vos études, mais ne venez pas jouer avec le cœur et les sentiments des autres. C'est ça?
Voilà.
Si vous savez que vous êtes contraint par les histoires de caste, c'est pas la peine de mettre des gens en sachant que vous n'irez nulle part avec
dans
eux.
Dans les difficultés.
C'est ça, Stéphanie, si on a bien compris.
Ah ben, c'est ça.
D'accord. Oui. Nous, ce qu'on va vous proposer, Stéphanie, c'est qu'on va garder votre contact à travers Olivia Pope et puis on va réfléchir sur comment monter une association de gens qui ont été victimes de ça. On va pas révolutionner les choses, mais comment au moins, en recueillant un certain nombre de témoignages, on puisse éviter à d'autres personnes d'être victimes de cela et puis de souffrir autant que vous aujourd'hui.
Voilà.
Et on espère que vous nous rappellerez après votre rendez-vous chez l'avocat.
Pour nous donner des nouvelles.
Avec plaisir.
Voilà, donc on va vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, comme on dit chez nous, Yako, beaucoup de courage. Et puis, on espère que vous tiendrez bien le coup. Et n'hésitez pas à nous appeler, nous sommes disponibles.
Je vous remercie. Passez une bonne
soirée. Merci. Bonne soirée. On va reprendre notre ami Ange.
Au revoir.
Oui. Au revoir.
Alors, Ange. Donc quand on voit cette situation là, on se dit quand même que on est bien donneur de leçons, ce que Stéphanie vient de dire, des gens qui font des études, qui sont intellectuels, qui rentrent chez eux et puis qui exercent des responsabilités. Et le pire, c'est que ces gens là, quand on les voit dans les bons discours d'intello, c'est eux qui nous donnent des leçons de morale, oui, le droit de l'homme, droit de la femme, etc. Et voilà. Puis global, quand ils rentrent, finalement tout ça on l'oublie.
C'est ça. Ah oui, ah, lui, il m'avait dit, vraiment, lui, dans son cas, ses parents lui ont dit, tu vas pour étudier. Donc, en fait, si j'interviens un peu dans son sens, il faut que, comme a dit la nana, excusez-moi, ben, il faut que, en fait, soit... Parce que moi, je pense que c'est aussi la naïveté. Il y a d'autres personnes qui viennent, qui ne sont pas au courant de la réalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Mm-hmm. Ni que autre. Donc, dans ces cas, il faut faire comme c'était le cas du gars. On lui a bien expliqué que quand tu vas en Europe, ce n'est pas pour épouser des blanches.
Mm-hmm.
Voilà. Ou soit on dit comme ça, voilà, ou comme vous avez dit, créer une association, parce qu'il faut informer les gens, surtout, du côté négatif.
Parce alors, qu'aujourd'hui, on va élargir un peu le débat. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est quand même qu'on a l'ère des réseaux sociaux, on a l'ère d'Internet, on peut suivre des matchs de foot qui ont lieu à 10 000 km d'ici en direct. On se rend compte tous, on fait des études sur les... Parce que là, vous dites que c'est quelqu'un qui est venu du pays. Mais voilà. Moi, je connais des gens ici, qui sont nés ici, qui ont cette pression. C'est-à-dire qu'ils sont nés en France, les deux sont nés en France, on leur dit « Ah, il est hors des questions que tu épouses quelqu'un qui n'est pas de chez nous. » Voilà, donc l'enfant, lui, il a grandi, il a le coup de foot pour quelqu'un avec qui il a feeling, mais au final, on dit « Bon, cette personne, tu t'amuses avec elle, mais tu n'iras pas loin. »
Et hein? Effectivement, là, c'est encore, comme vous dites, c'est encore plus pointueux. C'est pourquoi, eh ben, comme vous dites, s'il s'agit de crier, il faut en parler. Puisque, en fait, c'est des sujets aujourd'hui qui ne se parlent pas tout haut. Vous voyez ce que je veux dire ?
Les gens souffrent en silence.
Voilà. Ils sont tout dans le silence. Mais moi, je pense qu'il faut en parler. Il faut les dénoncer.
Voilà.
Parce que moi, je donne un exemple comme pour conclure.
Oui.
Vous voyez un peu les trônes d'Angleterre ?
Oui.
Vous voyez ce qui s'est passé avec la princesse Diana et le prince Charles ?
Tout à fait.
Donc, à cause de ça...
Tout à fait, parce qu'on rappelle l'histoire, c'est que la princesse Diana devait divorcer pour Charles pour aller se marier avec un héritier d'Al-Fayed. C'est ça, hein?
Oui.
Et l'héritier de la couronne aurait pu être d'origine égyptienne, hein, c'est ça?
Égyptienne. Était. Al-Fayed était égyptien.
À la base, si tu veux, c'est un mariage arrangé.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que dans les trônes, dans les histoires des trônes, c'est-à-dire que les rois ou les princes doit épouser sa lignée, un duc ou je sais pas quoi.
Mm-hmm.
Et c'est ce qui s'est passé avec la princesse Diana. Le prince Charles ne l'aimait pas.
Oui.
Il l'aimait avec Amélia.
Du coup, pour une autre personne. Mais, par obligation, la reine lui avait dit que, voilà, selon la lignée, il était déjà préparé à la princesse Diana. Mais, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Officiellement, selon tous les protocoles, on les voyait heureux, alignés. Et pourtant, dans les palais, la princesse n'était jamais heureuse.
Elle n'était jamais heureuse.
Elle n'était même pas là. Et ce qui veut dire, conséquence, ça a éclaté.
Mmh.
Et aujourd'hui, ce scandale aujourd'hui a révolutionné les trônes. Aujourd'hui, on voit des princes épouser des mannequins. Même le fils du prince Charles n'a pas voulu. Aujourd'hui, c'est libéré. Je pense que c'est ce qui doit se passer chez nous.
J'en dirais, il lit beaucoup les People Magazine, hein, il est au courant de tout, là. Hein.
ni aurait été ce scandale, aujourd'hui, les trônes occidentaux ne seraient pas libérés de ça, en fait.
Donc,
oui. L'histoire, oui, les princes ont des droits de poser des mannequins, vous voyez même les fils du prince Charles et de la princesse Diana a épousé une fille ordinaire. Et pourtant, à un moment donné, lui était ce scandale. Donc les gens ont compris que, c'est-à-dire, hormis les protocoles, on voit un prince avec une princesse, saluer tout le monde, mais au fond, il n'y a pas d'amour.
D'accord. Ange, on vous remercie pour les éclairages que vous nous avez apportés. On va vous libérer. On retient le fait que, selon vous, Sissoko, c'est pas possible ensemble. Voilà. Global Confidente, est-ce qu'on peut résumer un peu ce qu'on a dit et puis on peut avoir ton sentiment par rapport à tout ça, puisque on rappelle que tu as une rubrique qui s'appelle Global Confidente, une page Facebook qui s'appelle Global Confidente, sur laquelle, souvent, il y a des gens qui se confient par rapport aux situations de la vie actuelle. Au revoir, Ange. On se dit à bientôt.
Merci et bonne soirée.
Merci. Au revoir.
Merci.
Alors, pour résumer, ben en fait, j'ai l'impression, moi, je voudrais pas être un petit peu le défenseur de la face obscure, Mais c'est un peu trop schématisé à mon goût de dire que les petits jeunes qui viennent doivent faire leurs études et rentrer. Parce que je pense que quand ils s'engagent dans une relation, je pense qu'il y a déjà quand même un peu des sentiments. Et qu'ensuite, c'est plutôt la pression familiale qui fait que cette personne-là doit quitter la personne qu'elle aime pour faire plaisir aux parents. Et je pense que la souffrance, elle est des deux côtés. Et que finalement, dénoncer les cas, c'est permettre aussi à ces hommes-là de pouvoir assumer l'amour qu'ils portent pour une personne étrangère à leur caste et pouvoir le dire haut et fort devant sa famille. Je pense qu'il y en a, oui, il y a sûrement des personnes qui viennent pour profiter de ce confort et qui n'ont peut-être pas d'affection pour ces dames-là, mais je pense qu'il y a aussi de l'affection dans d'autres cas. Donc, il ne faudrait pas trop schématiser à mon goût. Hein. Ensuite, je sais
c'est pas un peu plus compliqué que ça, c'est ce que tu veux
voilà,
dire.
Voilà, c'est plus compliqué. Je pense que schématiser en disant que les personnes arrivent et puis s'amusent avec les filles et repartent, moi, je crois beaucoup en l'individu, en fait. Je pense que chaque histoire est différente et chaque vécu est différent. Et malheureusement, ce qu'il faut changer, c'est surtout les mentalités.
Olivia.
Ben oui, les mentalités, ça commence par notre génération. Donc,
c'est ça.
Ceux qui nous écoutent, eh ben, soient sensibilisés à ça, parce que voilà, il y a des déchirures, des souffrances, et c'est pas juste en fait. Je me dis que c'est pas juste en fait, voilà, pour les deux côtés, pour ceux qui subissent la pression, pour ceux qui acceptent la pression, et puis pour les victimes qui se retrouvent livrées à elles-mêmes en fait, parce que du coup c'est un sujet que personne n'aborde jusqu'à que voilà, on se projette pas. Les gens ne se projettent pas aussi loin en fait. C'est tellement, pour moi, digne d'un film il y a... Enfin, pour moi, c'est l'ancien temps, quoi. C'est, du coup, d'en parler aujourd'hui, en 2017, ça me fait bizarre, en fait. Donc,
Alors, est-ce qu'on veut pas... Une solution, ça serait pas de dire au départ que les uns et les autres soient clairs sur leur situation avant de s'engager. C'est-à-dire, quand on commence à avoir une relation avec une personne dont on sait que c'est pas possible, c'est de dire, ah, on commence quelque chose, c'est l'amour, mais voilà les embûches auxquelles on va être confronté.
Chacun dira que son histoire est plus forte que l'autre ou sa pression est plus forte que l'autre. Mais ouais, pensez-y quand même, il y a des enjeux et on détruit des vies, quoi.
C'est vrai que... Ouais, surtout quand il y a des enfants qui commencent à être au milieu. Hein. Parce que quand il y a des enfants qui commencent à être au milieu, ça commence à être chaud. Moi, je pense qu'il faut, être, il faut dire. Hein. C'est-à-dire que dire dès le départ, bon, on est amoureux l'un de l'autre, on a eu le coup de foudre, on vit une belle histoire. Mais sache que pour qu'on aille plus loin, ça va être chaud parce que j'ai une super pression de la part des miens. Qu'est-ce que vous en pensez, Glouba? Est-ce qu'il faut le dire, ça?
Je pense qu'on le dise ou pas, si on est dans l'histoire à fond et qu'il y a un coup de foot des deux côtés, on a beau savoir qu'on a des clivages, qu'on a des barrières, etc., on dira toujours notre histoire est différente et celle-là va marcher. Donc,
mais nous qui sommes dans les tribunes, est-ce qu'on peut pas...
On est dans les tribunes, alors c'est bien facile de dire oui, on aurait dû... Je pense qu'on doit tous... on doit le dénoncer, mais on ne doit pas regretter ce qui a été vécu, parce que finalement, ça reste une rencontre, une belle rencontre au début. La fin est plus tragique, mais cette fin est tragique parce que... Peu de personnes s'élèvent pour la contester. Et nous, aujourd'hui, à notre échelle, on a fait des études, on sait lire, on sait écrire. Nos mamans, nos papas ne savaient pas le faire. C'est à nous de le dénoncer et de faire de cette mixité qu'on a à l'école une mixité des couples et une mixité assumée.
Mais est-ce que par rapport à on est, puisqu'on parle, là, c'est l'histoire de Stéphanie, c'est une histoire qui a eu lieu, mais par rapport à des gens qui vont tomber dedans, qui vont être face à une rencontre de la sorte,
oui, mais
est-ce que tu penses...
toujours, c'est pas pareil.
C'est pas pareil,
mon
que de leur côté,
moi,
leur histoire, elle est pas pareille.
Voilà.
Abdespedia, tu
non,
en penses quoi?
Le souci, c'est pas de dire que notre histoire est pareille ou pas pareille, c'est que s'ils sont vraiment ensemble et qu'ils veulent vraiment... Parce qu'ils savent, très bien, je pense que... comment dire, ils ont dû voir d'autres couples à qui c'est arrivé et ils vont se dire ok, on doit surmonter ça, mais ils doivent être conscients que ça va pas être facile. Et s'ils s'aiment vraiment, c'est à eux de faire en sorte que leur histoire marche.
Donc l'amour doit permettre de dépasser ces différences là et puis la pression qu'on a. Olivia Pop.
Oui, ben je rejoins Abès en fait sur oui, l'amour doit dépasser ça, mais il faut en parler en fait, il faut que ça se sache.
C'est ça.
Oui, il faut que ça se sache, bien sûr, il faut que ça se sache.
Voilà, que du coup les personnes aient ça à l'esprit, quand même, que ça puisse cogiter un petit peu, voilà. Et pas que ça donne l'impression de nous tomber dessus alors qu'on le savait, mais que
même si on sait, des fois, on ne peut pas dépasser certains événements. Et je pense que c'est l'histoire de Stéphanie, en fait.
Mmh. Il sait même, mais la pression a été plus forte. Moi, je suis un peu inquiet pour l'avenir, parce que Stéphanie, elle entend d'aller jeune. Hein.
Ah, mais oui, elle a moins de 30 ans.
Elle a moins de 30 ans, et vivre ça en 2017, moi, de mon côté, moi, mes parents, ils ne sont pas de la même culture, ils ne sont pas du même pays. Bon, moi, je suis né il y a plus de 50 ans. Finalement, moi, ça tient. Et puis aujourd'hui, des jeunes qui sont nés maintenant, ils ont grandi ici. Bon, ils n'arrivent pas à dépasser un peu le cadre dans lequel on leur a mis. On les a mis, par exemple, c'est vrai que Glouba parle de mixité sur les bancs de l'école. C'est vrai que cette mixité, elle disparaît après dans la société, quoi.
Dirais même plus, c'est une fausse mixité.
À l'école ?
À l'école, oui.
Je pense qu'à la maternelle, l'école primaire, elle a lieu.
Voilà, elle a lieu.
Mais à partir du collège, c'est vrai que ça commence à disparaître au lycée, c'est pareil. C'est ça,
parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Les communautés se mettent ensemble.
Mm-hmm. Mais c'est pas... C'est là...
Que ça soit au collège ou au lycée, on le voit beaucoup.
C'est là que je...
La réelle mixité se perd.
Pour moi, le républicain que je suis, ça, il faut le casser. C'est-à-dire que ça commence par là. C'est là qu'on vit dans une vaste hypocrisie. Dans ce pays-là, il faut casser. Moi, je suis pour que, en la rentrée, comme ça se fait aux États-Unis, dans les lycées où il y a de fortes communautés, on fasse des tirages au sort, qu'on mélange les gens, tu n'es pas la même communauté, qu'on parte dans des camps et qu'on fasse dormir les uns dans des chambres où ils sont séparés, ils sont pas de la même origine, qu'ils se côtoient, qu'ils voient que l'autre il se lave, que l'autre enfin je suis vulgaire mais il pète, l'autre il vit comme l'autre, et puis que chacun apprenne. Et aujourd'hui, la grande déception que j'ai de cette République, je me permets de le dire, hein, c'est un coup de gueule, c'est que on a toléré cela pour arranger. On a ghettoisé les quartiers et ça, aujourd'hui les gens vivent
en ghetto,
voilà. Il faut dire ce qui est, et ils se reproduisent aujourd'hui entre eux. Et ça va même plus loin, ça dépasse les origines, c'est qu'on se reproduit par rapport au quartier. J'ai grandi avec quelqu'un de Saint-Priest, j'épouse quelqu'un de Saint-Priest.
Mais faut pas rêver, c'est les politiques des 40 dernières années qui ont créé ça.
Oui, mais c'est à un moment donné, il faut quand même qu'on change les choses, parce que là, ça devient terrible.
C'est
attends,
les
moment...
40 dernières années qui ont créé ça. C'est-à-dire qu'on a parqué les gens dans les banlieues, on les a mis dans la même, on a rassemblé les gens de la même communauté et on les a laissés là. Et
moi, je suis d'accord, mais quelque part aussi.
Et le problème, c'est qu'hier, on les a oubliés.
On les a oubliés.
Laisse-moi finir.
Vas-y.
On se rappelle d'eux que au moment des élections.
Moi, je suis pas d'accord, parce que c'est pas forcément des victimes. Parce que regarde sur le plateau aujourd'hui, on est d'origine différente. Sur Maquis Pluriel, on est des origines différentes. On fait preuve d'intelligence pour dire qu'il y a des causes qui nous intéressent tous. Il y a une société dans laquelle on est, il y a une république dans laquelle on a envie de défendre nos idées. S'assoit autour de la table, on n'est pas des mêmes origines. Donc pourquoi est-ce que certains sur les bancs de l'école n'arriveraient pas à un moment donné à se dire, mais attends, lui il est à côté de moi, j'ai plus de feeling avec lui qui n'est pas de la même origine que l'autre avec lequel je suis de la même origine. Allez, pour Olivia Pope, pour être de Grenoble.
C'est une éducation depuis le début. C'est une éducation. On revient encore à l'éducation de base, l'ouverture d'esprit. Voilà, la famille, vers quoi elle nous a éduqués. D'accord. L'école, elle fait sa part. Mais après, le reste, c'est quand même la famille, quoi.
C'est la famille qui doit permettre aux uns aux autres de s'ouvrir.
De s'ouvrir, parce que quand on rentre, c'est à la maison qu'on rentre, en fait. Voilà, l'école, on le quitte. Mais ce qui se passe de l'autre côté, voilà, il y a des gens qui. Voilà, quand d'apparence ils arrivent, ils ont l'air d'aller bien, mais à l'intérieur ils sont abîmés.
Il y a Glouba qui voulait rajouter quelque chose.
Je pense aussi que, alors tout ce qui est lycée, bien évidemment, quand on voit les mesures de carte scolaire, quand on voit que, on va le dire clairement, hein, que les habitants de Vonvelin vont tous dans le même lycée professionnel à Vonvelin, et qu'on sait que la population est à 90% maghrébine, en même temps, on va pas rencontrer beaucoup d'autres communautés pour s'épanouir.
C'est vrai.
Donc je pense qu'en fait, il faudrait dépasser le lycée, il faudrait faire des études supérieures pour aspirer à rencontrer d'autres communautés à la fac ou dans des grandes écoles, et enfin pouvoir vivre avec d'autres communautés et les connaître. Mais malheureusement, on a encore un blocage où on a beaucoup de nos lycéens qui ne franchissent pas le pas des études supérieures, donc qui restent confinés avec leurs voisins de quartier, avec qui ils ont fait toute leur scolarité, et ensuite eh ben, ils se marient avec la lycéenne avec qui ils ont passé le bac, et qui est la fille qui habite au 3e étage de la cité, lui il habite au 12e étage, et malheureusement ben, ils rencontreront jamais d'autres personnes.
Voilà, moi je suis d'accord avec ça, c'est le constat, effectivement c'est le cas, mais je dis quand même qu'il y a une part... L'homme ou la femme, l'homme avec un grand H, est maître de son destin à un moment donné. C'est-à-dire que je pense que même si on a vécu dans des conditions difficiles, aujourd'hui on a une ouverture avec Internet, avec les bibliothèques, etc. On peut s'ouvrir l'esprit. Moi, je suis le premier à défendre les conditions difficiles, mais aujourd'hui j'ai envie de taper un peu sur...
Les réveiller,
voilà, de dire, écoutez, prenez votre destin en main. On en parlait la dernière fois, la semaine dernière, quand on parlait du parcours de réussite. Olivia, c'est ça. Ce qu'on a retenu lors du parcours de réussite, c'est que les choses peuvent changer même au cours de sa carrière. On peut évoluer. Donc, allez, on prenait un exemple. J'en parlais avec Glouba il y a quelques semaines. Vous allez au café des Jacobins à Lyon. C'est un café qui est réputé. Ou à l'institution qui est l'ancien bar américain. C'est un café qui est réputé. Vous vous asseyez, vous prenez un chocolat. C'est vrai que ça peut-être coûter 5-6 euros. Mais vous y rentrez. Sans complexe. Mais si on reste chez soi en disant, oh, genre, je vais aller au snack qui est à côté. Et puis c'est bon. Une fois que j'ai fini le snack, je vais à Bellecour.
On nous a pas éduqués à l'ouverture vers les autres.
Voilà. Moi, je sais pas.
Mais je crois qu'il faut se prendre en main.
Je pense que ça commence, en fait. C'est pas quand on fait des études supérieures. Moi, je pense que voilà, ça doit commencer au collège. On commence à assimiler vraiment beaucoup d'informations. Et du coup, c'est celles-là qui vont plus nous marquer pour grandir, en fait.
Mais le souci du collège...
Abdespedia.
Oui. Le souci du collège, c'est qu'aujourd'hui... ce sont des collèges de proximité qui sont parqués la plupart du temps en milieu de 4 ou 5 tours et tu as que les gens des tours qui descendent dedans. Voilà. Et voilà, et donc on ne retrouve que...
La commande scolaire pour ces quartiers-là et peut-être avoir d'autres programmes.
Exactement, moi je pense, moi je vais être assez brutal.
On aspire à ça.
Moi je suis assez brutal, pour moi il faut raser tous les lycées de banlieue.
Ah
d'accord.
Oui, mais...
On rase tous les lycées de banlieue, tout le monde va en centre-ville, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle les bus school.
Ouais.
Vous voyez, les cars jaunes.
Ouais, les cars jaunes. Ouais.
Donc, ils font le ramassage des élèves, ce qu'on appelle le busing, puisqu'on sait que dans les quartiers difficiles, les collèges et les lycées ne fonctionneront pas. Ils prennent les élèves et ils les envoient dans les lycées de centre-ville. Et ainsi, ça règle une partie du problème. Mais l'erreur qu'on a commise, c'est ce qu'on s'est dit. On va construire des lycées à côté de, où les gens habitent. Comme ça, ça leur fera moins de trajets. Et finalement, quel est l'écueil? C'est que c'est les gars de la tour d'en bas, de la tour qui vont au collège et qui vont au lycée en bas.
Si on regarde très clairement le collège à Vénissieux, il est entre quatre tours. Mmh. Et si vous êtes allé le visiter, ils ont des grillages à toutes les fenêtres.
Tout à fait.
Voilà.
Oui, oui.
Voilà. Des grillages à toutes les fenêtres pour éviter des intrusions. Voilà, ça ressemble à des prisons, voilà.
Voilà, c'est ça. Mais c'est tout à fait ça.
Moi, ce que je peux dire, quand même, bon, c'est que je reviens sur maquis pluriel, je continue à le dire. Moi, je pense que on peut quand même se tirer un chapeau, même si ça coûte cher. On peut se féliciter sur le fait, quand même, que tous les mardis, on essaie quand même d'apporter un peu cette pluralité, cette diversité de la société française à l'antenne. On n'y arrive pas tous les jours, mais là, on essaie de le faire. On essaie quand même d'apporter cette touche sur cette société à laquelle on croit.
Hein?
Je pense qu'on croit tous en la même société de la diversité, où chacun soit reconnu en tant qu'être humain, avec ses particularités, mais qu'on a tous vers la République, Global la Confidente.
Peut-être entendu et partagé.
Voilà.
Oui.
Voilà.
Peu importe qui vous êtes et peu importe.
Eh bien, Olivia Pope, on te remercie.
Oui, merci à vous.
Et
merci
puis, on se dit à la semaine prochaine. Et puis, comme on dit chez nous, beaucoup de courage du côté de Grenoble, faut vraiment se chauffer. Hein. Le jour où le chauffage tombe en panne là-bas, c'est pas évident, hein.
Oui.
Allez, bonne soirée, au revoir.
Bonne soirée, au revoir à tout le monde.
Glouba, on n'a pas fini. Toi, tu es encore sur le plateau. Il nous reste quelques minutes. Abdespedia, donc le Maroc a gagné. Hein. Le
Maroc a gagné
1-0. Dans la Côte d'Ivoire est sortie.
Et le Congo a gagné 3-1.
3-1, donc ça veut dire qu'ils ont tous... Le Congo est premier de la poule. Hein.
Premier, deuxième Maroc, troisième Côte d'Ivoire.
Voilà, donc la Côte d'Ivoire va rentrer à Abidjan. Oui. José, elle a eu son papa, qui n'aime le papa de son fils, qui allait nulle part. C'était Serigier. Félicitations Maroc, félicitations à nos amis congolais de Kinshasa qui sont passés. Et puis les quarts de finale commencent ce week-end, samedi et dimanche. Donc l'Algérie et la Côte d'Ivoire sont sortis. Hein, ouais. Senkan, on va supporter le Maroc maintenant, puisque voilà, c'est le Maroc qu'on connaît. Et puis le Sénégal qui était là tout à l'heure.
Oui.
Glouba la Confidente, on se retrouve dans 15 jours.
À bientôt.
Il y a un auditeur qui m'a envoyé un message, il attend la chronique. Hein.
Ah, mais pour bientôt, c'est pour bientôt.
Ah, Glouba nous promet la chronique pour bientôt. Hein.
Le temps de me soigner.
Ah, le temps de se soigner, bon.
Ça sera peut-être le titre de la chronique.
Le temps de me soigner, c'est vrai, ça peut soigner autant en termes psychologiques et en termes physiques.
Oui, exactement.
Abdespedia, on était là.
Oui, on était là.
On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.
Inch'Allah.
Et puis.
J'espère plus en forme que je me suis.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous êtes les deux malades. Hein, donc la semaine prochaine, peut-être, c'est moi. Glouba ne fait que tousser.
Bah moi, je coupe mon micro à chaque fois que j'ai besoin de tousser.
Ah, la toussitude. Ok, ben on est ensemble, on a passé un bon moment. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Angola, Zimbabwe, danse. Allez, Tunisia, Bina. La France, Bina. Rendez-vous chez Mère Véron à Saint-Ouen. Et la poussine, Nina, Imi Katoukou, Mama. Willy Mouka, ma papa.